I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous sentez-vous capable de passer dans le monde de l'ultra? Moi non, mais mon invité nous montre que c'est possible même quand on court depuis pas très longtemps. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de running, de course à pied, de trail, de lifestyle sportif, du bonheur de retrouver la forme, de parcourir des chemins, de se démontrer que nous sommes capables de faire des choses en courant, en bougeant notre corps, en marchant, en allant sur des terrains qui parfois nous semblaient impossibles à parcourir, et c'est un petit peu ce que notre invité va nous raconter aujourd'hui, qui nous semblait impossible à parcourir il y a pas si longtemps que ça. Mais avant, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que si vous êtes en vacances, vous en profitez bien, que vous en profitez pour vous reposer, peut-être aussi pour peut-être imaginer vos plans pour la suite de la saison, et peut-être que notre invité aujourd'hui vous donnera des idées, peut-être aller un petit peu folle, hein, soyons honnêtes, parce que les distances sur lesquelles il s'aligne n'ont rien de commune, si j'ai envie de dire, hein, ça fait partie de ces longues distances. Mais d'abord, hein, vous savez, je vais vous faire le petit message habituel. D'abord, je voudrais remercier les patrons, vous savez, qui financent le podcast en donnant à partir de 1 euro par épisode. Ça vous permet d'avoir accès aux épisodes privés tous les lundis. Je fais un petit épisode privé dans lequel je raconte tout simplement ma semaine d'entraînement. Et puis, vous avez aussi ces épisodes-là sans la publicité. Voilà, vous n'avez pas les coupures publicitaires de début et de fin. Mais vous savez que la publicité, moi, c'est aussi ce qui permet de financer le podcast et ma vie sportive. Parce que mon projet à moi, c'est de devenir sportif. C'est de devenir un sportif. Alors, est-ce qu'on met le terme de pro? Est-ce que c'est vivre dans le monde du sport? En tout cas, c'est de créer ma vie sportive à moi telle que je la rêvais quand j'étais gamin, et que petit à petit, j'essaye de construire, hein, c'est vraiment ce à quoi j'ai envie d'arriver. Et justement, Patreon, hein, le financement par Patreon, mais aussi tout ce qui va se monter autour du Hamsters Running Club, mais aussi la vente des t-shirts, des choses comme ça, ça fait partie de la construction de mon rêve. Je couvre après mon rêve et vous m'aidez à le faire, et je vous en remercie beaucoup. Je voulais aussi vous remercier pour les commentaires que vous laissez sur Apple Podcast. Vous savez, ça aide beaucoup les podcasts à être découverts, hein. Vous mettez une note 5 étoiles ou laissez un petit commentaire. C'est ce qu'a fait Tinky Sebi aujourd'hui, qui dit « Merci à Bertrand de nous transporter dans son univers de run. Les épisodes sont remplis de fraîcheur, le ton et le regard adopté sont très pertinents. Bref, j'adore ce podcast qui m'accompagne lors de mes sorties. Bonne continuation, Bertrand. » Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ce commentaire qui me fait chaud au cœur. Et merci aussi pour ceux qui me laissent des petites dédicaces dans les stories, notamment sur Instagram, mais c'est aussi sur le cas sur Twitter. Alors c'est facile le principe, hein. C'est que là, si vous écoutez le podcast, vous pouvez faire une pause, hein, si vous courez. Moi, j'en fais des pauses, hein, quand je cours comme ça. Je fais des petites photos, vous pouvez faire une petite photo de là où vous êtes, vous dites tiens, je suis en train d'écouter le podcast, voici ce que je vois, et hop, merci Bertrand, merci Kilomètre 42, vous pouvez me taguer par exemple @BertrandSoulier, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, ou sur, vous pouvez utiliser le hashtag KM42podcast, et ça aide en fait beaucoup le podcast à être découvert, parce que ça permet de le faire découvrir à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter des podcasts, qui ne savent pas peut-être même que ça existe ou comment ça fonctionne. Alors pour cela, vous pouvez même leur expliquer comment ça fonctionne, mais ça nous aide en fait, nous podcasteurs, et ça aide en fait tout le monde dans le monde du podcast à avoir plus d'audience, à être plus découvert, et ça nous aide aussi finalement à amener d'autres personnes à courir, parce que nous avons découvert le bonheur de courir, de bouger, nous savons ce que ça nous apporte, mais il y a plein de gens qui aimeraient probablement aussi le faire et qui ne savent pas trop comment le faire, voilà, et c'est ma manière à moi de les aider, c'est ma manière à moi d'apporter ma contribution, hein, comme le dit Tinky Sebi, à l'univers du running et d'arriver à aider certaines personnes à courir. Bon, il est temps maintenant de vous présenter un petit peu mon invité. Nous avons enregistré cet épisode le 31 juillet. Stéphane venait de parcourir 5 jours avant, il avait fini la M-Extrême de Montreux, hein, petite course, 112 km, 9000 mètres de dénivelé positif dans les Alpes, qu'il a bouclé en 33 heures. Il faut préciser quand même qu'il y a un tiers des partants qui ont abandonné, et lui, il avoue avoir bouclé plutôt en bonne forme, ou en tout cas par rapport l'effort que ça demande, hein, je vous rappelle, 112 km, 9000 mètres de dénivelé positif. Bien sûr, ça coinçait un petit peu dans les jambes, bien sûr, on a mal aux pieds après, mais il n'a pas fini à l'agonie, hein, voilà, on n'a pas ces images-là de personnes qui arrivent totalement épuisées. Et pourtant, Stéphane était un petit joufflu il y a seulement 4 ans, hein, c'est ce qu'il nous expliquait dans, c'est ce qu'il a expliqué dans cet épisode. Et en quelques années, il s'est transformé en coureur-marcheur d'ultra. Oui, parce que là, on est dans des distances où on ne peut pas courir en permanence, ou même d'ailleurs, il le dit, hein, il y a une grande partie qui se fait en marchant. Et si vous discutez avec des coureurs d'ultra, avec des gens qui font des ultras, y compris la fameuse Diagonale des Fous, et ben vous vous rendez compte qu'en fait il y a une grande partie qui se fait en marchant. Alors Stéphane, comment est-il arrivé à ce parcours? Comment est-il arrivé à courir 112 km? Et ben c'est ce qui nous explique, hein, comment finalement, après les petites courses de 5, 10 que nous avons l'habitude de connaître, hein, que nous voyons un petit peu partout, comment après avoir fait, je crois, 2 marathons, il s'est aligné sur des courses de plus en plus longues, comment il a augmenter le kilométrage et comment maintenant il rêve encore, hein, de faire encore plus grand que ça. Son objectif 2021, son objectif de fou en 2021, il va nous l'expliquer et comment il compte y arriver. Nous avons donc discuté de cette course, de ses sensations, sa stratégie sur cette course, sa préparation, son alimentation, la nuit en montagne, comment ça se passe, dans la tête, hein, parce que finalement il y a le côté physique, mais aussi le côté mental. Il nous a parlé des descentes, des montées, du sentiment qu'il avait, comment il en a profité, pas profité, est-ce qu'il a pris des photos, des choses comme ça. On a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, y compris aussi de son alimentation pendant, est-ce qu'il avait de l'eau, est-ce qu'il avait un sac, est-ce qu'il regrette, comment il prépare. Voilà, tout un tas de petits éléments qui, si vous voulez faire de l'ultra, vont vous être vraiment précieux et qui vont vous montrer que oui, c'est possible. Parce que moi, je suis admiratif de son parcours et d'oser tout simplement s'aligner sur de telles distances. Et hors micro, Stéphane m'a dit qu'il rageait quand il m'entendait dire que je ne me sentais pas capable d'allonger les distances, parce qu'il m'a dit « oui, tu en es capable ». Et à l'écouter, je me dis que nous sommes capables de beaucoup pour peu d'y croire et de s'en donner les moyens. C'est ce qu'il nous montre dans cet épisode. Je vous laisse maintenant avec notre discussion. N'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, hein, tous les liens pour le retrouver sur Instagram et sur Strava sont là. Et puis, il est aussi membre du Hamsters Running Club. Là aussi, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode. Donc, vous pourrez venir aussi lui poser des questions ici. Si vous rêvez d'ultra, si vous avez envie de courir un ultra, ou si vous voulez lui donner des conseils pour l'aider à atteindre ses objectifs, pour progresser dans l'ultra, et ben n'hésitez pas à lui envoyer des petits messages, à lui dire bravo, à lui donner vos conseils avec une grande bienveillance, parce que je sais que nous sommes dans le monde de la bienveillance, vous savez, c'est vraiment, ça me tient à cœur, et je vous laisse maintenant écouter cette discussion avec Stéphane. Bonjour Stéphane.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Très bien.
Alors, j'ai une première question à te présenter. J'avais vraiment, tu vois, je me dis tout à l'heure, j'étais allongé dans l'herbe comme ça et je me disais, qu'est-ce que mon invité du jour faisait il y a une semaine pile poil, parce que là aujourd'hui on enregistre le vendredi 31 juillet, donc qu'est-ce que tu faisais le vendredi 24 juillet à cette heure-là à peu près, jeudi, hein, il est 13h40, hein, voilà.
Alors, j'étais dans ma voiture en direction de B en Suisse pour aller chercher ma chambre d'hôtel.
Ta chambre d'hôtel, et qu'est-ce que tu... alors, je me disais, mais t'avais une chambre d'hôtel, d'ailleurs, tu vois, elle t'a servi?
Ben oui, j'ai quand même pu dormir quelques heures.
Oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu as fait ensuite? Alors, tu as pris ta chambre d'hôtel, et qu'est-ce que tu as fait quelques heures plus tard? Parce que finalement, on en parlera après, d'ailleurs, de ce qui s'est passé juste avant, entre ce moment où tu prends ta chambre d'hôtel et le moment où tu prends le départ, parce qu'on va dire, hein, t'as pris le départ. Mais t'as pris le départ de quoi, finalement?
Alors, à 4h du matin, j'ai pris le départ d'un ultra. C'était la M-Extrême à Montreux. C'est 110 km ou 112, ça dépend comment on compte, avec 8500 mètres de dénivelé.
D'accord. Alors moi, vu comme ça, ça me paraît être un monstre inaffrontable pour moi qui me suis limité au marathon avec mes petits 42 km. Je sais que dans nos auditeurs, on en a plein qui sont tentés par l'ultra. On avait fait déjà des derniers épisodes, derniers ravitaux sur la thématique de l'ultra. Mais je me dis quand même, enfin, on va parler de ton parcours, hein, mais t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là, voilà, hein, au moment où tu prends ta chambre d'hôtel, au moment où t'es à quelques heures du départ, tu te dis quoi?
J'étais vraiment très confiant, et puis que voilà, que ça allait être magnifique.
D'accord. Qu'est-ce qui te met comme ça en confiance avant de partir pour combien de temps de course?
J'ai fait 33h30.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui te met en confiance avant de partir pour 33h30?
Ben, disons que le matériel était prêt. Après la préparation avec le coach, tout a été bien fait, juste. Donc, à moins d'une blessure ou d'un fait divers, je vois pas ce qui pouvait ne pas aller.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai vu, il y a des participants qui ont... J'en ai vu qui participent à la même course que toi, qui ont abandonné. Certains ont beaucoup, beaucoup souffert. Je ne sais pas toi comment tu l'as vécu. On en parlera tout à l'heure de comment on vit ce genre de course, comment on la prépare. Mais d'abord, quand même, je vais te laisser te dire quelques mots, de présenter, donner un petit peu ton parcours et ton parcours de coureur, notamment pour se dire, est-ce que tout le monde est capable de faire ce type d'ultra?
D'accord. Donc, je m'appelle Stéphane, j'ai 43 ans. J'habite à Bulle, en Suisse, tout près des montagnes des Préalpes. Puis autrement, j'ai commencé la course à pied. La première fois que j'ai couru de ma vie, c'était le 17 mai 2016. Et puis je faisais presque 100 kilos quand j'ai fait ça. Et puis si tu veux savoir, j'ai fait 4,5 km en passé 38 minutes.
4,5 km en 38 minutes, tu pesais plus de 100 kilos.
Ça fait du 8 minutes 30 au kilomètre.
Voilà. Et donc, moins de 4 ans plus tard, ou 4 ans plus tard.
Ouais, 4 ans plus tard.
Ouais, tu fais un ultra de 112 bornes avec 8500 de dénivelé. J'ai envie d'abord te dire bravo, chapeau. Mais alors, quel est le parcours qui t'amène comme ça de ces 4 premiers kilomètres qui ont dû être, j'imagine, un souvenir un peu cuisant quand même, ça a dû pas être facile.
Ouais, c'était pas facile.
112 kilomètres.
Pour 2016, là, mon objectif, c'était de... La boucle là, que je faisais de 4,5 km, c'était de la faire en moins de 30 minutes. Donc ça, j'ai réussi avant la fin de l'année 2016. Puis après, les kilomètres se sont enchaînés gentiment. Et puis la forme est venue, les kilos sont partis. Et puis voilà, quoi, c'est un peu comme une drogue.
D'accord. Tu dis les kilos sont partis. C'est vraiment la course à pied qui t'a aidé ou finalement, tu as changé de vie, tu as fait d'autres changements
Ouais, c'est un tout quand même. C'est l'hygiène de vie, l'alimentation et puis le sport.
Donc, tu disais, d'abord, l'objectif, arriver à faire ces 4,5 km en moins de 30 minutes. T'es passé ensuite par des petites distances, par des petites courses. Comment t'as fait ensuite?
Alors après, en 2017, j'ai commencé mes premières courses. Puis c'était un 5 km. Puis après, voilà, en 2017, j'ai fait une dizaine de courses où c'était entre 5 et 10 km. Après, j'ai fait mon premier trail de 20 et quelques kilomètres fin 2017. Et puis après, les années suivantes, ça s'est enchaîné chaque fois avec plus de courses, quoi. En 2018, j'ai une trentaine de dossards. Et puis en 2019 aussi.
Oui, alors une trentaine de dossards, ça fait quand même une course presque pas toutes les semaines, mais toutes les deux semaines, même un peu un rythme un peu plus serré que ça en fait. Hein, ça fait quand même beaucoup,
ouais.
Beaucoup de kilomètres. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'était devenu quoi, un peu boulimique de la course et tu te sens un peu drogué ou comment tu vois les choses?
Oui, on peut dire que c'est un peu ça. Et puis après, après avoir un dossard, ça aide à progresser aussi. C'est plus facile, quoi, voilà, on arrive à se mettre dans le rouge et puis à pousser les limites. Quoi, en fait, on pourrait encore les pousser encore plus, quoi, j'arrive pas à être à fond, mais voilà, ça valide l'entraînement à peu près.
C'est quoi pour toi, parce que là, tu commences à parler de limites, mais finalement, la limite, tu la vois plutôt physique, mentalement, tu dis, c'est quoi, tu dis, je pourrais les pousser un peu plus et je vais pas jusqu'au fond, en fait.
Disons que quand t'arrives à l'arrivée, tu te dis que t'aurais pu faire encore mieux, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on en parle souvent dans les derniers ravitos. C'est un peu cette notion-là où on se dit toujours « Ah, mais finalement, j'avais un peu de marge. »
Ouais, c'est ça, quoi.
Même sur l'ultra, là, même sur ce week-end, là, à l'arrivée, tu te dis finalement « J'avais de la marge. »
Bon, sur les barrières horaires, j'avais pas tellement de marge, mais j'ai vraiment géré pour arriver bien.
D'accord. Alors, donc une trentaine de courses par an, mais à un moment donné, enfin, tu t'es pas dit en 2016, tu te dis pas, je vais aller courir un ultra. Enfin,
pas du tout alors.
À quel moment ce projet arrive pour toi dans ta vie? À quel moment tu décides de t'engager sur cette course-là?
La fin 2017, quand j'ai fait mon premier trail, ça m'a déjà plu que les courses de route. Puis après, les kilomètres, ça a augmenté progressivement, quoi. En 2018, j'ai fait un 50 km en trail. Après 2019, j'ai fait on peut dire que c'était presque un premier ultra. C'était sur deux jours, il y avait 70 km le samedi et 36 le dimanche.
Oui. Donc, ce qui fait déjà
106
déjà sur deux jours, hein, ce qui est déjà une belle distance. Ça veut dire que là, il y a une nuit en quoi ? C'est en gîte ? C'est en...
J'avais un hôtel, disons.
D'accord.
Après, chaque fois dans ces courses, il y a soit un camping ou des dortoirs, des choses comme ça. Mais ouais, je préfère l'hôtel. C'est plus... On peut mieux se reposer et puis être tranquille, quoi.
D'accord. Et donc, à quel moment tu te dis « je vais m'inscrire sur cette course à Montreux » ?
Alors, au début, ce n'était pas prévu, parce que, avec notre cher Covid, j'avais d'autres projets. Normalement, j'aurais dû faire un 105 km dans les Pyrénées au mois de début juillet. C'était une nouvelle course de l'UTMB. Et puis, c'est tombé à l'eau. Et puis après, il ne restait pas grand-chose. Puis, il y avait cette possibilité. Montreux, c'est un peu une des seules courses qu'il y a eu pour l'instant cette année en Suisse. Et puis, voilà.
Oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, je disais qu'il y en a beaucoup qui se sont engagés sur cette course-là. J'en ai vu qui se sont engagés vraiment au tout dernier moment. J'ai l'impression qu'il y avait quand même de la place pour s'engager, y compris d'ailleurs des noms qu'on voit souvent sur les courses, etc., qui ont décidé au dernier moment de s'inscrire. Donc, pour toi, c'était pas du tout prévu, mais finalement, la distance, t'avais préparé quoi, un 105.
Voilà.
Donc, tu te sentais prêt de toute façon pour cette distance.
Exactement. Puis en fait, quand il y a eu le Covid, et puis que tout a été annulé, là, après, avec... On avait fait un point avec le coach, puis après, mon coach, il est en France. Donc là, vous avez été beaucoup plus confinés que nous en Suisse. Et puis après, c'était l'histoire d'avoir un projet personnel pour valider l'entraînement. Puis après, je lui ai proposé je me suis fait un parcours ici autour de chez moi qui faisait 100 km. Puis l'idée, ça aurait été de faire ces 100 km en solitaire comme une course. Et puis après, y a Montreux qui a pas annulé, et puis j'ai réussi à m'inscrire. Ils avaient bloqué les inscriptions, la chose la plus stressante, c'était de pouvoir se réinscrire quand ils ont rouvert les inscriptions, parce que c'était limité à 300 places.
D'accord. D'ailleurs, tiens, tant qu'on y est, il y avait des consignes, parce qu'on a vu, il y a eu en France, je ne sais pas si vous avez vu ça en Suisse, mais en France, il y a une course où les gens sont partis avec le masque au départ, et la photo a fait le tour de la France, et la Fédération Française d'Athlétisme demande aux participants de prendre le départ des courses avec le masque. Est-ce que c'est comme ça en Suisse, ou est-ce que c'est finalement plus souple ?
Alors là, pour cette course-là, on devait avoir le masque pour le retrait des dossards, où on rentrait dans la salle pour prendre les dossards, mais dès qu'on sortait, on pouvait l'enlever. Après, dans la zone de départ, le matin, là, à 4h du matin, on devait avoir le masque. Et puis, une minute avant le départ, ils ont dit qu'on pouvait l'enlever. Et puis, ils avaient mis un filet au sol. Puis, tout le monde l'a mis par terre. Puis, comme ça, ils ont pu les ramasser facilement. Après, il y avait au ravito. Quand on arrivait au ravito, il y avait un bénévole qui nous mettait du désinfectant dans les mains, pour se désinfecter les mains. Et puis après, au ravito, c'est pas nous qui nous servions. On disait ce qu'on voulait, ils nous mettaient dans une barquette en carton, puis on mangeait plus loin à l'écart, puis on devait garder un peu les distances.
D'accord, ouais, donc il y a quand même des mesures qui sont prises spécialement pour éviter que la proximité... j'arrive pas à le dire, que vous soyez trop proches les uns des autres. Il n'y avait pas l'obligation, par exemple, dans le matériel obligatoire, vous n'avez pas dit, il faut votre masque à l'arrivée aussi, ou passer une d'arrivée avec le masque.
Non, en fait, dans le matériel obligatoire, il fallait trois masques. Ouais. Parce que voilà, il fallait un pour le retrait des dossards, un pour le départ, la zone de départ, puis après, il fallait un pour tous les navettes et les transports. Donc, si on abandonnait, fallait avoir le masque pour qu'il nous rapatrie, en fait.
D'accord. Alors, cette course, finalement, tu avais prévu d'abord donc une course dans les Pyrénées. À quel moment ce projet-là, tu te dis, je vais courir, je vais me lancer sur cette course-là, sur ce type de course-là, en fait?
C'est un peu la suite logique, quoi. C'est des courses qui font un peu rêver, quoi, avec les paysages et puis des distances pareilles, c'est... Voilà, c'est pour faire un peu toujours plus.
Alors moi, je te suis sur Strava. C'est vrai que les distances... alors, je ne sais pas si tu l'avais annoncé d'ailleurs, parce que moi, j'ai vu les distances enfler. Mais est-ce que tu l'as annoncé, je vais me lancer là-dedans? À qui tu l'as dit? Est-ce que c'est quelque chose que tu as rendu public? Ou finalement, c'était juste avec ta famille, tes proches, pour leur dire, voilà, je me lance là-dedans? Comment t'en as parlé de ça, en fait?
Disons, il n'y avait pas vraiment d'annonce, mais ce n'était pas caché non plus, quoi. Oui, j'ai pas fait une annonce, je vais faire les 100 km de l'UTMB dans les Pyrénées, mais voilà, si on me posait des questions, je disais que je faisais ça.
Et donc, à quel moment, alors tu dis que t'as un entraîneur, c'est un entraîneur que t'as pris spécifiquement pour préparer cette course-là, ou finalement tu travailles avec un entraîneur depuis quelques temps déjà, avant?
Je l'ai pris au début de l'année, là, et puis c'était pour, c'était pas spécifiquement pour cette course-là, c'est pour l'avenir, quoi, pour au quotidien.
D'accord. Ouais, et donc, alors j'imagine en plus hein, que tu as peut-être un plan hein, pour faire d'autres courses de ce type-là après, pour dans le futur.
Oui, maintenant j'ai un autre objectif pour l'année prochaine.
Ah, alors je sais pas si tu veux en parler.
Oui, comme ça c'est fait, puis je peux plus me cacher après. Bah, l'idée c'est de faire la Diagonale des Fous en 2021.
La Diagonale des Fous 2021. Ah oui, alors là, c'est encore un autre sacré gros morceau. Bon, avant d'attaquer la Diagonale des Fous, on va d'abord digérer le Montreux, hein, tu me permets. Parce que d'ailleurs, ça sera intéressant de voir hein, comment finalement, comment tu, l'un et l'autre, tu peux les enchaîner, comment t'as imaginé un petit peu les choses. La Diagonale des Fous, moi, je sais que j'en parlais avec un petit jeune du club il n'y a pas longtemps. Il disait, lui, c'est son objectif. C'est la course dont il rêve. Hein, c'est vraiment la course qu'il veut faire. Et vraiment, c'est un projet de long terme, quoi. Mais c'est-à-dire que moi, je me dis, 5 ans après avoir débuté la course, toi, tu te dis, je vais aller faire la Diagonale des Fous. Moi, ça me paraît quand même extrêmement, encore là, un truc monstrueux. Mais on verra, on en parlera. On garde ça pour la fin, tu vois. On va garder un petit peu ce truc-là pour la fin. On va rester finalement à Montreux. Comment on prépare quels sont les types d'entraînement qu'on fait pour préparer un ultra?
Il y a eu 2-3 week-ends blocs un peu où il y avait pas mal de kilomètres. Mais après, là, il faut dire que mon ultra, c'était, on va dire, 99,9% c'était de la marche, ce que j'ai fait. Mm. Donc, c'était vraiment, comme on a dit au début, c'était une grande balade.
Alors justement, comment tu prépares ça? C'est-à-dire que tu fais des parties, des journées complètes à marcher, à courir, comment t'as organisé en fait un petit peu cette... Parce que tu dis je faisais des week-end blocs, etc. Mais ça consistait en quoi par exemple?
C'est 2 jours de suite avec des longues sorties. Donc la plus longue que j'ai fait 5 autres kilomètres en une fois. Et puis après le lendemain, refaire une vingtaine de kilomètres.
D'accord. Donc après, de toute façon, c'est vrai que l'ultra, hein, tu rentres dans une zone où tu n'avais jamais allé. Hein. T'avais jamais... Parce que finalement, avant, tu avais fait quoi? Le plus long que tu as fait, tu m'as dit 70 en un jour et puis 20 le lendemain ou 30 le lendemain, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Mais après, j'ai fait un autre qui faisait 85 km l'année passée.
D'accord. Donc là, il y avait, on va dire, si je calcule bien, 30 km finalement où tu étais, où tu dis là, je ne suis jamais passé dans ces zones-là, hein, finalement.
Exactement, oui.
De kilométrage, donc il y a toujours cette zone d'inconnu hein, dans laquelle on n'est jamais allé, et que de toute façon tu ne peux pas préparer l'entraînement parce que ça ferait un volume qui est trop immense. En dehors de ces blocs en fait, tu cours par exemple, je pense que tu as les statistiques, combien tu cours de kilomètres par semaine à peu près, tu vois, comme ça à vue d'œil?
Environ 50. Ah ouais, s'il n'y a pas de sortie spécifique trail.
D'accord, environ 50 km, ce qui n'est pas un gros volume. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des volumes qui soient beaucoup plus importants.
Si tu veux, là, pour 2020, Manoche, aujourd'hui, là, je suis à 1350 km.
D'accord, alors moi, je n'ai pas regardé à combien je suis, parce que comme ça augmente un petit peu. Moi, je ne suis pas très chiffre, en fait, mais tiens, je vais regarder par curiosité à combien je suis. Mais t'es largement plus que moi hein, de toute façon. Oh là là, oui. non, je préfère pas comparer. Allez, mais moi j'ai pas un objectif d'ultra, mais en fait là où tu vois c'est intéressant, c'est que je vois par exemple le jour, je regardais sur Instagram quelqu'un qui a fait 200 km par semaine, tu vois, en entraînement alors que finalement je crois qu'il prépare pas des trucs autres que du marathon, tu vois, des choses comme ça. Moi je m'attendais que quelqu'un qui court des distances comme ça, qui veulent faire de l'ultra, finalement, ils bouffent des, je sais pas, 120, 130, 140 km par semaine.
Non, je crois pas que c'est ça. Ceux qui font ces kilomètres-là, c'est plutôt les coureurs un peu de demi-fond, puis les rapides.
Mmh. Ouais, c'est vrai. Parce les marathoniens, ouais.
Ouais, parce que si je dois faire une centaine de kilomètres par semaine, faut, je les fais pas à 3 minutes le kilomètre, donc ça prend du temps, quoi.
Combien, parce que tu dis finalement, tu en as fait 99% du temps en marchant à peu près, hein, tu dis dans une course comme ça. J'ai pas fait mathématiquement les 33 heures, 112 km, la moyenne que ça fait. Tu dois avoir à peu près une estimation de la moyenne au kilomètre.
C'est du 3 km heure, quelque chose comme ça.
D'accord.
Ouais, je sais pas, j'ai pas compté, mais.
Ouais. Alors il y a que dedans, effectivement, il y a beaucoup de dénivelé. J'imagine en plus qu'il y avait des passages qui sont très raides. Hein, j'ai pas trop regardé le profil de la course. C'est vraiment, tu dis de la balade. Finalement, c'est plus de la randonnée rapide. Comment, je sais même pas comment tu peux le présenter en fait.
Ouais, je sais pas trop comment on peut le présenter. Après, ben voilà, les élites ils courent et puis ceux qui sont derrière ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est un peu. Voilà, le but d'un ultra, c'est, à mon niveau, c'est d'être vraiment d'être finisher, puis d'être, de ne pas avoir trop souffert.
Ouais. T'as regardé par curiosité l'élite, combien de temps il met le premier?
Oui, il a mis 14 heures et quelques.
14 heures, oui, effectivement, pour faire les 112, tu m'as dit?
Ouais, 112, ouais.
Ouais, 14 heures pour faire 112 avec le dénivelé, là ça traîne pas en route, hein. C'est-à-dire que lui finalement à 18h le soir il est déjà chez lui, quoi.
Et puis moi j'étais pas à la moitié.
Et toi, ce qui veut dire que toi quand tu dois passer une nuit, lui finalement il est à l'hôtel tranquillement. Comment la nuit se passe d'ailleurs, enfin, finalement dans cette, t'as dormi, est-ce que t'as marché tout le temps, comment ça se passe dans le déroulement de la journée? Qu'est-ce que tu as dans la tête, en fait, tout au long de la journée? Donc, à 4 heures, tu pars, t'es confiant?
Voilà. Puis là, bon, le départ, c'était une montée sèche de 2100 mètres de dénivelé direct. Donc, pendant 3 heures, c'était la première montée, la grosse difficulté. Puis là, c'était assez... C'était vraiment un petit chemin où tu es à la queue leu-leu, et puis là, il y avait tout le monde à la queue leu-leu, et puis il n'y avait pas un bruit, personne qui parle, tout était juste le bruit des bâtons. C'était assez spécial comme ambiance. Puis après, quand tu arrives au sommet, là, et puis tu as le soleil qui se lève, c'est juste incroyable, les paysages et tout ça, quoi.
Là, déjà, tu te dis, j'ai bien fait de venir, au moins, j'ai vu quelque chose de beau, c'est ça?
Voilà.
Donc t'es au sommet, après j'imagine que ça monte, ça descend, c'est un profil un peu comme ça.
Voilà, puis c'était super technique et considéré comme très difficile comme ultra.
C'est quoi qui te pose le plus de difficultés? Parce que tu vois, la semaine dernière, j'ai discuté avec, à même heure, avec Johan Stuck, qui disait, lui, il avait des gros problèmes. En descente, il était pas à l'aise, il travaillait beaucoup sur la descente. Et finalement, sur le plan technique, qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes sur cette course?
Ouais, c'est exactement la même chose, c'est les descentes. Au tout début, quand j'ai commencé, j'aimais bien les descentes parce que j'avais l'impression d'aller vite, mais là, c'était tellement technique. Je me suis fait, de la première descente, je me suis fait dépasser par une centaine de personnes, je pense.
D'accord. Ah oui, quand même. Hein. Ça veut dire que là, il y en avait qui traînent pas, eux, en descente.
Voilà.
Quand toi, finalement, tu avais dit... T'as mis en place une stratégie? Tu te dis quoi au départ? Tu te dis, je regarde les barrières horaires, je me cale sur les barrières. Comment tu gères ça, en fait?
La stratégie, c'était d'être bien à la base de vie au 60e kilomètre. Parce qu'après, il restait presque la moitié. C'était ce que le coach m'a dit. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Après, là, dans la première descente, j'ai essayé un peu de courir. Ça faisait mal après 3 heures de montée. Donc, après, je suis descendu en marchant tranquille, on dira. Et puis après, tu calcules un peu les barrières horaires. Tu vois que ça passe. Et puis, tu continues comme ça.
Je regarde en même temps le site, hein, je vois que la base de vie, elle est quand même située après 20 heures de course, hein, grosso modo, enfin, où la barrière horaire est à 20 heures de course.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça.
T'as beaucoup d'avance quand t'arrives à ce moment-là ou comment ça se gère?
Faut que je regarde, mais oui, j'avais quand même quelques heures.
Donc là, tu te dis, bon, ça va, t'es confiant, ça doit être rassurant quand même de se dire, je cours pas contre la montre en plus, hein, à être limite sur les barrières.
Oui, non, alors là, j'étais très confiant parce que j'étais très bien, j'avais zéro douleur, rien du tout.
Zéro douleur après donc la moitié du parcours.
Voilà.
J'imagine. Alors, je sais pas. Est-ce que la deuxième partie s'est passée aussi bien ou est-ce que c'est devenu plus compliqué ensuite?
Après, c'était long, mais j'ai pas eu de problème particulier.
Comment se passe la nuit alors? Tiens, parce que c'est la question que je t'avais posée au départ finalement. La nuit, même si les journées sont assez longues finalement, il y a eu quoi? Il y a 7 heures de course dans le noir peut-être, quelque chose comme ça ou...
Ouais, ça doit être ça. Dans le noir-noir, on dira ça comme ça.
Ouais, dans le noir-noir. Finalement, à ce moment-là, tu as pris quoi comme décision? De jamais t'arrêter? Tu as dormi un petit peu? Comment ça se gère ces moments-là?
Alors moi, j'ai décidé d'avancer, toujours avancer le plus possible. Au ravitaillement, je me suis arrêté, les petits ravitaillements, je me suis arrêté peut-être 5-10 minutes maximum.
D'accord, c'était pourquoi? Tu dis c'est pour repartir plus facilement, si je m'arrête trop je repars pas ou c'est quoi?
J'ai l'impression que de repartir après être arrêté longtemps c'est plus difficile quoi, les muscles ils se refroidissent ou je sais pas, ça fait un peu mal après. Justement au 60e à la base de vie là, on a pu récupérer un sac où j'ai changé de t-shirt, 2-3 choses, donc là je suis resté peut-être 20 ou 25 minutes. Ben, en repartant, j'ai senti que c'était déjà plus dur.
D'accord. Ah oui, donc le moment qui est normalement du réconfort se transforme en moment où derrière, il faut remettre le corps en jambe, le corps en route finalement. Ouais. Et c'est là que c'est plus compliqué.
Chaque personne est différente. Et puis, à la base de vie, il y a même des gens qui ont pris une douche, quoi. Moi, ça, je sais pas, ça ne me viendrait pas à l'idée, à moins d'être tombé dans la boue ou qu'il y a eu un problème.
Alors, on ne l'a pas dit d'ailleurs, mais il a fait très beau hein, ce week-end. Hein. Tu n'as pas eu de pluie ou je ne sais pas quoi.
Il y a eu 3 minutes de quelques petites gouttes de pluie. Mais autrement, c'était grand soleil, chaleur quasi insupportable la journée.
D'accord. Je ne sais pas s'il faut souhaiter. Alors, la grande chaleur, c'est dur à gérer. Mais finalement, qu'il n'y ait pas d'humidité, c'est quand même un point qui facilite beaucoup. Parce que j'imagine pas partir pour 33 heures si tu pars ça entièrement sous la pluie. En plus, dans les Alpes, où il peut faire très froid, etc. Donc, la chaleur, c'est compliqué à gérer. Est-ce que tu as calculé, tiens, c'est vraiment, tu as la question, je vous dis, mais combien tu as bu de litres d'eau dans ton parcours là? Tu as fait un calcul de combien de fois tu avais rempli tes réserves d'eau?
J'ai pas rempli à chaque fois parce que j'avais quand même un camelback de 3 litres. Mais j'ai dû boire, 10 litres, même plus peut-être.
Ouais, 10 litres. On parlera de l'alimentation un petit peu, mais tiens, moi, la nuit, tu vois, je me dis toujours, donc la nuit, tu marches sur des chemins qui sont, c'est pas du chemin de campagne, hein, on précise, hein, c'est les Alpes, la frontale. T'es tout seul ou t'as trouvé, en fait, des gens pour t'accompagner? Vous êtes, comment ça se passe sur les chemins comme ça?
J'étais plus ou moins seul, mais après, tu dépasses une... Moi, j'étais plus fort à la montée. Donc, je rattrapais les gens et puis après, eux, ils me redépassaient à la descente. Puis après, au ravitaillement, eux, ils restaient assez longtemps parce que chaque fois, ils me dépassaient dans la descente. Puis au ravito, ils étaient toujours là quand j'arrivais. Et puis, je repartais presque en même temps ou même des fois avant eux. Et puis après, dans la montée, ben, je faisais un peu d'écart. Et puis, dès que ça descendait, ben, ils me reprenaient de la descente.
Ouais, donc finalement, t'as pas quelqu'un avec lequel t'as pu faire une grande partie du chemin ou parce que des fois, c'est vrai, moi, je sais que sur des courses, et puis on en parle régulièrement, il y a des gens, des fois, qui se retrouvent toujours à la même vitesse et tu les retrouves du début à la fin. Mais là, c'est pas le cas, en fait. Hein, c'était vraiment plutôt solitaire.
Voilà, plutôt solitaire, ouais. Mais c'est difficile de vraiment avoir sur toutes les portions la même vitesse. Parce que le terrain, il est tellement cassant et technique. Si c'était du plat régulier, tu arriverais à trouver quelqu'un qui va à la même vitesse. Mais là, ça dépend tout de la technicité. Voilà, en montée, c'est dur. En descente, chacun fait comme il peut.
Et donc, de nuit, sur ces chemins, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
Oui, là, pendant la nuit, il y avait une partie très technique. C'était comme une sorte de mer, un peu de cailloux, de rochers, avec un peu comme des petites crevasses. Là, c'était assez difficile de trouver le chemin. Mais ouais, faut continuer à avancer, quoi, c'est ça.
Ouais, tu te dis, de toute façon, maintenant, faut que j'aille, faut que j'avance, quoi. Il n'y a pas de, y a pas de solution, quoi. Donc la nuit se passe bien, hein, et donc finalement le soleil se lève quoi vers 6h, hein, on va dire 6h30 peut-être dans ces zones-là à peu près.
Voilà, c'est à peu près ça, oui.
Donc j'imagine que là c'est quand même grand spectacle à ce moment-là.
Le deuxième lever de soleil, c'était moins impressionnant que le premier, quoi. J'étais pas dans une zone où c'était super, j'étais un peu dans la forêt, donc ça faisait moins l'effet. Le soleil qui se lève vraiment sur les montagnes comme la première nuit.
Ah, je dis ah.
Ouais, j'étais pas au bon endroit, on dira, pour le deuxième lever de soleil.
Ouais, c'est-à-dire, bon, tu peux pas trop prévoir non plus de dire, ah, il faudrait que je sois pile à cette heure-là, à cet endroit-là, etc. Pour que ça se passe. Parce que sur la distance comme ça, finalement, c'est. Est-ce que tu avais fait, tiens, avant le départ, tu avais un guide, tu sais, en disant, à telle heure, j'ai passé à tel endroit, il faut que je sois à telle heure à la base, je vais faire ça, ça et ça et ça. Et est-ce que finalement. Est-ce que tu l'avais, je sais pas, tu vois. Et est-ce que ensuite ça se déroule à peu près comme prévu ou tu constates des écarts importants?
J'avais pas spécialement de plan là, mais avec le suivi Life Trail là, après avec ta Coty Trail, il te fait un pronostic de tes heures de passage. Et puis moi avec ma Coty, il me prévoyait en 24 heures sans les pauses.
24 heures sans les pauses, ils te prévoyaient. Ils t'ont vu plus rapide donc finalement dans la réalité.
Voilà.
C'est quoi d'après toi alors qui fait le... Parce que finalement tu me dis que tu n'as pas fait beaucoup de pauses. C'est quoi alors finalement qui pour toi fait que tu n'es pas dans la... T'es plus lent que ce qu'eux ils avaient annoncé?
Ouais, c'est la technicité du parcours. Parce qu'il y a vraiment... Quoi, après même pour les élites, je pense qu'il y avait pas mal d'endroits où c'est impossible de courir. C'était vraiment des crêtes où tu peux mettre qu'un pied à la fois. Il y a des pierriers, des choses vraiment très techniques. Et la première descente, c'était super glissant. J'en ai vu plusieurs qui sont tombés à côté de moi. Donc, c'est un peu ça, je pense.
Oui. Tu vois, je suis en train de regarder le dossier de presse, etc. Il y a des photos, d'ailleurs, on voit un grand pierrier au milieu. Il faut dire que c'est les Alpes, hein, donc c'est de la haute montagne. À quelle altitude ça passe au plus haut, en fait?
Là, on était à 2500, là, au sommet de la première montée.
2500?
Oui.
C'est le... Et puis, alors, oui, je suis en train de regarder encore les trucs. Effectivement, oui, la première montée. Je comprends quand tu dis qu'elle était raide, parce que je suis en train de la regarder. C'est même le point le plus haut finalement. Hein,
ouais, c'est le point le plus haut. Ouais.
Ouais. Après, alors j'imagine. Alors, tu vois, maintenant je regarde le plan, je me dis quand même la descente qui a suivi la montée, elle a dû être aussi quand même assez terrible. Hein.
Ah ouais, c'était horrible. Là, c'était le moment le plus difficile parce que c'était dur. J'arrivais pas en essayant de courir, ça faisait mal. Donc je me suis dit que ça servait à rien parce qu'après t'arrives pas à finir. Et puis là, il y a plein de monde qui te dépasse. Donc là, moralement, ça met un petit coup, mais c'est gérable.
Ouais, alors je regarde le plan, hein, pour ceux qui vont écouter le podcast. Donc, vous partez, Montreux, c'est à 500 mètres d'altitude, un peu plus de 500 mètres d'altitude. Vous êtes monté à presque, donc à 2500.
Voilà.
Et puis, vous redescendez finalement à 1300, quelque chose comme ça. Hein. C'est le pont de Nantes, je vois, hein, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vous le dites, vous.
Ouais, c'est ça.
Ouais, et donc ensuite, c'est une espèce de montagne russe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu parles de la fameuse passage, finalement, la base de vie, mais derrière la base de vie, qu'est-ce que je vois? Il y a quand même une sacrée grimpette encore qu'à suivre derrière.
Ah ouais, après, c'est passé, c'est 1000 mètres de montée.
Donc effectivement, là, ça grimpe à nouveau très raide. Hein, et puis derrière, finalement, après, ça redescend. Alors, je pense qu'il y a quand même des descentes encore très raides, etc., mais ça a l'air d'être... Alors je ne vais pas dire vallonné, parce que quand même, ça serait un peu gonflé. Mais vous montez à 2200, vous redescendez à 1000, à 1300 quand même, hein, ça fait une belle descente, ça remonte un petit peu, ça redescend, etc. T'en as pas marre au bout d'un moment de cet enchaînement de montée, de descente? Là, tu te demandes pas quand ça va s'arrêter?
Presque, mais d'un côté, au moins quand ça monte, il n'y a pas besoin de se dire que j'aurais pu courir. En fait, pour moi, la montée, ça, si ça pouvait faire que monter, ça aurait été parfait.
Ouais. Finalement, c'est ton regret de dire il y a des de pas avoir pu courir, ou tu te dis ça, c'est un point sur lequel il faut que je travaille. Comment tu vois les choses?
Ouais, je pense après faut être vraiment plus athlétique, avoir vraiment plus de muscles, gainage et tout ça pour supporter les chocs et parce que ouais, c'est ça pour tenir la distance, je pense, qui me manque.
Alors après, moi j'ai, tu vois, je continue dans mes trucs, etc. Donc ça monte, ça descend. Est-ce qu'il y a un moment dans cet enchaînement et tout, tu te dis, enfin, je reviendrai, tiens, ça me fait des lieux, c'est sympa, je reviendrai en touriste, ou tu vois, enfin, est-ce que finalement tu as une vision un peu touristique de la course, tu vois ce que je veux dire?
Bah disons que j'étais presque à domicile. Là, c'est la région quand même pas très loin d'où j'habite. Puis c'est l'hiver, c'est toutes les pistes de ski que je fais, quoi. Donc je connaissais un peu les sentiers, je les connaissais pas pour le trail, mais en me baladant, bah, à chaque fois t'arrivais, il y avait les télésièges que tu prends l'hiver quand tu vas skier, quoi. Donc la région a été connue pour moi.
Tu reviendras en fait en courant, je veux dire, ou tu te dis, tiens, peut-être d'ailleurs, tu te dis un jour je le referai, mais en m'entraînant différemment, ou c'est pas dans te. Pour l'instant, c'est trop tôt.
Ah non, ça me dérangerait pas de le refaire, c'est tellement magnifique.
Alors, on était donc dans les trucs. Alors, attends, moi, tu vois, je suis encore dans le parcours. Je me dis, bon, hop, ça monte, ça descend. Ça finit quand même par une grande descente, hein, qui imagine... est-ce que c'est un soulagement quand la descente, quand t'attaques la dernière descente, ou est-ce que finalement tu dis, waouh? Parce que, alors, attends, moi, je vois 1800, il faut redescendre à 500 mètres environ. Donc, ça veut dire que quand même, la dernière... Je sais pas combien de temps t'as mis pour faire la dernière descente. Mais elle a dû être longue quand même, celle-là.
Ouais, c'était très long. Puis en plus, ben, je la connais bien, parce que celle-là, je l'ai fait plusieurs fois. Et puis au fait, on pourrait se dire que c'est facile parce qu'on arrive en ville et puis à la civilisation, mais la montagne, elle rentre juste au bord de la ville, quoi. À part peut-être les deux derniers kills où on est dans la ville et puis sur les quais au bord du Léman, le reste, c'est encore de la haute montagne, juste... juste aux portes de la ville, quoi.
Oui, donc finalement, cette dernière descente, elle est un peu... alors moi, j'ai un peu l'image, tu vois, quand je faisais de la randonnée avec mes parents dans les Alpes, on avait des fois des descentes où tu as l'impression que ça se finissait jamais avec de la caillasse, tu as l'impression que ça tape en permanence. Finalement, là encore, tu peux pas trop vraiment courir. En plus, tu as la fatigue des 100 et quelques kilomètres qui viennent de se faire, parce que je regarde à peu près le plan. Finalement, la dernière descente, elle fait quoi, 10 kilomètres, pas loin, hein, quelque chose comme ça, hein.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
Ouais. Donc finalement, est-ce qu'à un moment tu savoures quelque chose, tu te dis tiens, je suis presque arrivé, ou est-ce que c'est vraiment que quand tu arrives vraiment dans la ville où tu te dis bon bah ça y est, maintenant c'est bon, quoi.
Bon, quand j'étais au sommet de la dernière descente, je savais que c'était bon, que j'allais arriver à rentrer dans les temps et qu'il y avait zéro problème, que j'allais réussir.
T'as jamais stressé, finalement, sur cet aspect de dire je vais être trop limite dans les temps? T'as toujours assez de marge pour être assez serein là-dessus?
Oui, j'avais chaque fois assez de marge. Après, ben, tu passes ta nuit et la journée à faire des calculs, à compter qu'il faudrait être à 3 km/h à peu près pour être sûr de finir. Puis tout d'un coup, ça a passé, quoi.
Alors, le sentiment que tu as, le moment là où tu arrives, là, tu parles des derniers kilomètres en ville, etc. Il y a des gens qui applaudissent à ce moment-là quand tu arrives, il y a de la foule, c'est comment l'ambiance?
Bah, sur les quais, là, il y a plein de touristes qui, je pense, qui savent pas trop ce qui se passe. Et puis autrement, il y avait pas trop de monde à l'arrivée, mais il y a quand même tous ceux qui sont déjà arrivés, les coureurs, tout ça, qui t'applaudissent. Il y a quand même une petite ambiance. Mais voilà, avec le Covid, c'est pas... Normalement, ce trail, ils font un festival avec de la musique, avec des concerts, où c'est vraiment très festif. Puis là, ça devait être limité, parce qu'il pouvait pas y avoir plus que 300 personnes au même endroit.
Ouais, donc finalement, le côté un peu festif, il disparaît à cause de la maladie, hein, à cause du virus. Voilà. Est-ce que tu étais attendu à l'arrivée? Tu avais ta famille qui t'attendait? Comment ça s'est passé?
Oui, j'avais ma copine qui m'attendait.
T'as regardé, enfin, je sais pas comment elle vit. Alors ça, c'est un truc, tu vois, qui m'intéresse sur les, parce que bon, tu dis, il y a des week-ends, il y a beaucoup de chemin à faire, etc. Comment ton entourage, il voit, tu vois, ces parcours, ces courses que tu enchaînes, à un moment donné, ils se disent pas, ouh, il faudrait que tu te calmes, ou ils t'encouragent. Comment ils voient les choses un petit peu?
Ben là, elle trouve ça incroyable. Mais après, le reste de ma famille, je sais pas trop comment ils voient la chose. Ils se disent que voilà, que ça paraît un peu impossible, mais voilà, c'est juste faut faire attention, c'est ça.
Oui, c'est presque un petit peu de la peur en disant fais attention, on revient entier ou des choses comme ça, quoi, un petit peu.
Ouais, voilà.
Et donc, quand tu passes cette ligne d'arrivée, à ce moment-là, c'est finalement tu te dis c'est quoi, c'est un soulagement, tu te dis ouais, je l'ai fait. Tu t'es dans quel état d'esprit en fait?
C'était ouais, le soulagement d'avoir réussi et puis que. Entre guillemets, c'était... Ouais, je sais pas si je peux dire ça, mais que c'était facile. J'ai pas trop souffert. Je suis pas arrivé mal ou à plat ventre. Ouais, tout s'est bien passé. J'ai pas eu trop mal aux jambes. J'ai pas eu mal au ventre. Franchement, je suis arrivé bien. Comme ça, ça peut valider le fait d'avoir le projet pour l'année prochaine.
Ouais, c'est marrant quand même de dire j'arrive facile, enfin j'arrive bien, etc. Alors bien sûr il y a la fatigue de ça, mais de se dire j'arrive finalement, c'était pas parce que c'est ce que t'as dit au début quand même. Hein. T'as dit oui mais c'est pas si compliqué, c'est pas si impossible que ça à faire. Il y en a plein qui écoutent le podcast et qui se disent mais comment je prépare ce genre de choses là, tu vois. Alors toi tu disais t'as pas fait finalement des grands qui a beaucoup de temps de kilométrage, etc. Mais finalement, qu'est-ce que tu dis dans ta préparation qui fait que ça rend les choses faciles? Est-ce que tu vois, quand tu regardes ta préparation, est-ce qu'il y a un truc ou des petites astuces, tu dis ça m'a servi, c'est vraiment ce qui m'a permis de réussir?
Bah, d'avoir validé le programme du coach, bah, ça, si lui l'a proposé de faire comme ça, c'est que ça devait être la bonne chose. Et apparemment, bah, il a eu raison.
C'est un coach qui est spécialisé là-dedans, qui connaît vraiment tout ça par cœur,
Oui. C'est Fartlek Coaching avec Christophe Mallardet et puis moi c'est Diego Alarcon qui s'occupe de moi.
D'accord. Donc là c'est vraiment des tu te dis pour réussir ce genre de choses et puis tu parles ensuite de la diagonale des fous. Donc là pour toi vraiment l'encadrement d'avoir un coach etc, ça fait partie des choses qui sont déterminantes pour arriver à aussi être serein finalement et savoir comment s'entraîner.
Voilà, exactement. Vu que j'ai commencé à courir en 2016, après voilà 2017-2018, ben tu cours, tu progresses chaque année, chaque mois tu progresses, après au bout d'un moment ça stagne et puis après voilà, tout seul, c'est difficile de, voilà, sur Internet ou dans les magazines, les livres, il y a tout plein de programmes pour faire son marathon ou son 10 km en moins de tant de minutes. Mais voilà, après, c'est mieux que ça soit adapté pour tout le monde. Et puis là, il me fait, je marque mes disponibilités et puis il met un programme, les séances de semaine en semaine. Puis après, ben, il y a un retour de mes ressentis, ses ressentis. Et puis voilà, comme ça, on progresse.
Mmh. C'est quoi, par exemple, un type de séance? Parce que là-dessus, tu ne travailles pas la vitesse pour ce genre de course.
Non, mais il faut la travailler aussi. Parce que, bah, disons, il y a cette course, mais après, je ne fais pas que ça dans l'année, disons. Mmh. Quoi, bah, cette année, elle est un peu particulière, mais...
Ouais, donc tu as quand même gardé de l'entraînement de vitesse, tu as quand même gardé cet aspect, j'ai envie de dire, c'est pas que de la sortie longue, en fait.
Exactement. Voilà, c'est beaucoup d'endurance, puis après, dans la semaine... Je dirais quoi, deux sorties de qualité avec des fractionnés en côte ou des choses comme ça.
Mmh. Oui, alors surtout en plus quand tu t'apprêtes à faire 8500 de dénivelé, je pense que travailler la... Tu dois avoir une partie de travail technique quand même, d'arriver à monter plus facilement, enfin puis tu as les bâtons, alors bon, toi tu as fait pas mal de trail, puis bon, t'es dans les Alpes, je veux dire que t'arrives pas d'un plat pays non plus, hein. C'est pas comme si t'es au bord de la mer et d'un coup tu t'attaques à la montagne. Là sur une course comme ça, t'as, j'imagine, forcément les bâtons.
Oui.
Mais j'imagine les autres courses, t'avais déjà t'entraîner avec les bâtons, c'est une habitude pour toi en fait.
Ben, dès que ça dépasse les 20 km, comme ça, je prenais les bâtons. Puis là, l'entraînement, ben voilà, quand j'ai fait les blocs d'entraînement, quand j'ai fait la sortie de 5 autres kilomètres, c'était vraiment un rythme. J'aurais pu aller plus vite, mais c'était le rythme, marche rapide.
Oui, donc tu mémorises finalement aussi, un peu comme on fait sur marathon, on se dit, bon, j'ai une allure, faut pas que j'aille trop vite non plus, même sur des séances qui sont plus courtes, etc. Là aussi, tu as finalement ce travail de dire, bon, bah, faut que j'arrive dans une allure qui sera celle du jour, du jour de la course.
Voilà.
J'avais une autre question, tiens, sur le plan matériel, tu dis, à la base, c'est le CP, hein, c'est ça?
Oui, le CP, ouais.
Tu dis il y avait un sac, etc. Est-ce que tu changes de chaussures? Est-ce que tu gardes les mêmes chaussures, les chaussettes, tu vois? Parce que c'était des questions qu'on avait parlé d'ailleurs avec la chaussette de France sur l'épisode là-dessus, en disant qu'il y a des coureurs il y en a qui changent de chaussettes, d'autres pas, etc. Il y a des courses où si t'arrives trempé, bon après c'est sûr que c'est un petit peu différent. Toi, comment finalement est-ce que t'as une paire de chaussures? Est-ce que tu te changes quand même certains vêtements? Comment t'as géré ce moment-là là en fait?
Alors, dans mon sac, j'avais une autre paire de chaussures, des chaussettes longues, courtes, des autres habits, mais j'ai changé que de t-shirt. Après, les pieds, j'étais bien, donc ça ne vaut pas la peine de prendre le risque de remettre mal la chaussette et puis de changer de chaussure, puis que ça soit moins bien. Donc, je suis resté avec les mêmes.
Ouais. Est-ce que d'ailleurs j'imagine que sur la diagonale des fous, à mon avis, c'est peut-être pas gérable tout à fait de la même manière. Après, bon, je sais pas ce que d'après les récits que j'en ai vus, hein, mais on en discutera après. Mais c'est vrai que j'ai vu dans les abandons que j'ai vus ou ceux qui ont beaucoup souffert, notamment l'histoire des pieds, des ampoules, des choses comme ça. Donc effectivement, tant qu'à être bien dans ses chaussures, on les garde. On se dit bon, ça va tenir jusqu'au bout comme ça. Qu'est-ce que t'avais prévu trop de choses? Enfin, tu prévois un peu toutes les cas de figure possibles, j'imagine, quand tu prépares ton sac.
Ah, bah après, oui, j'avais tout. Je vais pas dire que j'avais toute ma maison, mais j'avais pas mal de choses pour me changer. De la nourriture, j'avais beaucoup trop. Mais après, mon sac sur moi que j'avais pendant la course, j'ai rien utilisé à part la nourriture, mais. J'ai pas l'impression que c'était des choses que j'avais entre eux. Ça peut toujours. Il y a le matériel obligatoire. Puis après, j'avais quand même un débardeur si je voulais changer pour avoir moins chaud et des choses comme ça.
Tu parlais d'alimentation. Tiens, alors, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que toi, tu as mangé en tout cas sur le parcours? Quelle était la petite alimentation que tu avais embarqué avec toi?
Alors, moi, j'avais des bars, un peu des pâtes de fruits et puis. Quelques compotes et puis aussi des compotes de, comment on appelle ça, beurre de cacahuète.
Des compotes de beurre de cacahuète? Ah, ça m'intéresse ça.
Ouais, oui, c'est la forme d'une compote, mais c'est du beurre de cacahuète qu'on prend presque liquide, quoi.
D'accord, ok. Et c'est des choses que tu trouves, que tu achètes ou que tu fais toi-même?
Non, ça c'est tout est acheté.
D'accord, ah bah tu vois, alors je chercherai ça parce que moi qui suis un grand fan du beurre cacahuète, si j'en trouve une autre forme, ça peut solutionner mes problèmes des fois de savoir quoi embarquer, tu vois, sur des courses. Donc tiens, je regarderai un petit peu ce que je trouve. Et au ravitaillement, t'as pris quoi au fur et à mesure du ravitaillement ou t'as mangé avec ce que t'avais embarqué avec toi?
Non, au ravitaillement, il y avait plusieurs fois de la polenta, il y avait à la base de vie, il y avait des pâtes. Puis un des derniers ravitaux, il y avait un risotto là, et c'était incroyable comme il était bon.
Le souvenir, on dirait, ah, le risotto était bon. Ouais, c'est marrant. En plus, alors, ce que je dis, c'est que ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir sur le site, je mettrai le lien. Il y a dans le roadbook des coureurs, il marque, il y avait tous les types de choses qu'on trouvait. Et effectivement, je vois col de chaude, complet plus risotto sur le type de ravitaillement.
Ce que j'aime bien, c'est ce qui est marqué au dernier.
Alors, léger plus un peu de courage, effectivement. Mais. Et en fait, il faut le dire, au dernier, c'est-à-dire que c'était le dernier sommet avant la fameuse descente.
Voilà.
Et à ce moment-là, la barrière horaire, d'ailleurs, quand on regarde, la barrière chrono, elle est à 30h30 là-dessus. Et l'arrivée, c'est 34h, la barrière horaire.
Voilà.
Donc finalement, toi, tu as une heure de marge, à peu près.
Voilà, ouais. Bon, la fin, la dernière descente, j'ai vraiment... voilà, je me suis laissé finir. S'il fallait faire une heure de moins, j'aurais fait une heure de moins.
C'est quoi? C'est physique? Tu te dis, j'en profite un petit peu plus?
C'est clair qu'elle m'a paru beaucoup plus longue que dans mes souvenirs, surtout.
Et oui, parce que d'habitude, tu l'as fait quoi? Dans des sorties courtes, finalement?
Voilà, ouais, c'est ça, ouais.
Et là, d'un coup, tu la découvres après sans bande dans les pattes, quoi.
Voilà.
Alors, je regarde, hein, c'est vrai que bon, après, j'imagine que c'est quand même une grosse course, hein, parce qu'il y a. Et puis, quand on regarde le roadbook, c'est tout extrêmement précisé, etc. Je pense que c'est super rassurant. Hein, tu sais exactement où tu vas, là, quand même. Hein.
Oui.
Alors, je regarde les distances et tout, tac, 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 des plus et tout. Effectivement, comment dire, la dernière descente, hop. Léger plus un peu de courage, ouais. Et c'est quoi là-dessus sur le. Il y a des, j'imagine, il y a des points de passage, il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de bénévoles sur une course comme ça.
Bah, disons, vu la longueur du parcours, là, il y a les bénévoles au ravitaillement, il y a 2-3 points de chronométrage, puis autrement, non, là, il n'y avait pas grand-chose. Puis normalement, les autres années, dans le roadbook et tout ça, ils font de la pub pour les supporters, les spectateurs, pour dire là, il faut accéder par ici pour voir les coureurs et tout ça. Puis là, ben, avec le virus, ben, il y avait, voilà, ils ont limité parce qu'il ne devait pas y avoir plus que tant de personnes actives au même moment sur la course, y compris le public.
Oui, c'est une déception pour toi un petit peu, là, finalement, de dire qu'il n'y a pas tant d'ambiance que ça, ou finalement, le plus important, c'est toi d'avoir fini.
Non, le plus important, c'est d'avoir fini. Après, voilà, s'il y avait les concerts de musique, parce que, en fait, ce festival de trail, j'ai déjà fait deux autres courses les autres années. Et puis là, il y avait une ambiance de folie, en fait. Mais après, voilà, sur un ultra, c'est pas la même chose. Après, voilà, je pense que les premiers sont arrivés, il devait y avoir du monde. Mais après, là, voilà, moi, quand je suis arrivé, c'était presque la fin, disons.
Ouais. S'il y a eu de la musique après, t'en aurais profité ou t'étais cuit?
Ouais, j'aurais pu rester un moment.
Parce que c'est ça, en fait, après la question, c'est comment tu te sens à l'arrivée? Quel état de fatigue tu ressens? Alors, tu dis, finalement, j'étais pas si fatigué que ça, etc. Mais est-ce que tu te sens pas épuisé? Est-ce que derrière, tu as fait une grosse nuit? Est-ce que tu as eu du mal à dormir? Comment ça se passe ensuite, alors, les premières heures et puis la semaine après? Parce que maintenant, là, on est à... Alors, ça fait 5 jours que t'es arrivé, finalement, une semaine après le départ. Donc, finalement, là, t'es dans la récup, hein, soyons honnêtes là-dessus. Finalement, sur la première nuit, derrière, après, est-ce que tu dors bien ou t'es un peu... Ça tire un peu de partout, quand même?
Non, ça tire de partout, quand même. Tant que t'es chaud, c'est là-bas que j'étais à Montreux, récupérer les sacs, après retourner juste à ma voiture, ça allait. Après sortir de la voiture à la maison, après 45 minutes de voiture, là, c'était l'enfer. Après, voilà, prendre la douche, ça a été. Après, j'ai essayé de... Ben, je me suis couché 2-3 heures. Après, ben, j'ai mangé. Et puis après, je suis allé faire la nuit normale.
T'as pris un jour de congé le lendemain ou pour digérer ou comment t'avais... comment t'as pris... Ou peut-être t'es en vacances, d'ailleurs, je ne sais pas comment t'as géré.
J'avais pris congé... Quoi, me sont annoncés vraiment officiellement. Et puis, vu que je suis en télétravail, ben, vers 8 heures, quand je me suis réveillé, ben, j'ai commencé à travailler.
D'accord. Donc, tu as rattaqué le travail un peu. Alors, je ne dis pas comme si de rien n'était, mais bon, c'est vrai que d'être en télétravail, ça t'a peut-être évité des. Tu es arrivé à marcher normalement, tu as d'ailleurs
Presque.
Presque, parce que c'est l'image qu'on donne souvent, j'ai vu ça en disant, le lendemain du marathon de Paris, on voit des Parisiens qui ont du mal à aller prendre le métro, etc. Je me dis qu'après quand même 112 bornes et autant de dénivelé, c'est vrai que les premiers jours, j'imagine encore, peut-être tu sens quand même que ça tire et que c'est quand même un effort qui est important, quoi.
Oui, mais c'est surtout les jambes, ça allait, mais c'est surtout les pieds avec la cheville... Qui ont vraiment enflé.
D'accord.
Où il y a le coup de pied de la chaussure, là, où on attache. Voilà, je suis un peu irrité parce que voilà, ça serrait. Et puis, voilà, c'était pour nos 35 heures, tu as les chaussures tout le long au pied, quoi.
Ouais, et finalement, c'est peut-être à ce moment-là où tu te dis, bah, j'ai bien fait de ne pas les enlever aussi. Hein.
Voilà, parce qu'après, si, bon, j'ai eu une petite cloque, mais autrement, si tu vois que tu as des ampoules ou que tu as un ongle en moins et tout, je pense que quand tu remets ta chaussure, tu repars pas la même chose après, quoi.
Mmh. D'ailleurs, c'est un. T'as des. Comment ça s'appelle Tu t'es rendu compte que dans cette course, par exemple, sur le matériel, sur des choses comme ça, tu t'es dit, mon matériel, c'est tout bon? Ou est-ce que tu te dis finalement par rapport à la technicité, est-ce qu'il y a un truc, tu vois, si tu le refaisais, alors je te dis pas demain, hein, bien sûr, mais ouais. L'an prochain, par exemple, tu te dis, je dois absolument changer un point en particulier parce que je me suis rendu compte que c'était pas terrible.
Bon, il y a mon sac, c'était pas spécialement adapté au trail. Parce que l'année passée, quand j'avais fait les 85 km, j'avais vraiment un sac de trail avec 1 litre d'eau, plus encore une autre flasque. Et puis, j'ai manqué assez plusieurs fois d'eau. Puis, je me suis dit que ben, cette fois, il ne faut pas que ça m'arrive. Donc, j'ai pris un camel bag où j'ai pu mettre la poche de 3 litres. Et puis là, c'était quand même plus, j'avais quand même plus un sorte de petit sac à dos que vraiment un sac 100% trail.
Mmh. Et au final, c'est quoi ? C'est pas très confortable ? C'est un peu lourd ?
Voilà, c'est un peu lourd, je pense. Il y a moyen de faire un petit peu plus léger. Mais bon, vu que j'ai pas vraiment couru, ça m'a pas dérangé. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer.
Tu sais le nombre de participants qu'il y avait finalement au départ de la course ?
Oui, c'était limité à 300.
Et tu sais combien il y en a qui arrivent ou...
Il y a eu un tiers d'abandon. Ouais, 100 qui ont abandonné.
Donc, il y a quand même un tiers d'abandon, effectivement. Hein. Donc, ça fait... Et pour voir que bon, les conditions climatiques étaient bonnes, hein, en plus. Hein, oui. On va dire que c'est la météo qui joue. Hein. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'abandon. Donc, déjà, chapeau, bravo d'être arrivé, d'avoir fini comme ça. Puis,
merci.
Puis, moi, de dire que tu arrives comme ça en étant... Bah, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je suis vraiment admiratif hein, sur le truc parce que je me dis, moi, je me sens pas, tu vois, d'aller faire ces distances-là. Même si il y a des moments, je me cherche, mais mon défi des prochaines années, je me dis, quel ça serait mon défi. Mais de là à me dire, tu vois, aujourd'hui, je vais partir sur passer la nuit comme ça dans les montagnes. Moi, comme ça, je ne le vois pas trop. Toi, par contre, ce que tu envisages déjà, donc, c'est la Diagonale des Fous. Vraiment, l'objectif, c'est 2021.
Voilà. Vu que, alors là, comme je suis arrivé bien, ça valide le fait que je peux faire plus. Surtout la difficulté là, de ce parcours à Montreux, qui est vraiment très, très dur, ça laisse présager de bonnes choses.
Alors, Diagonale des Fous, je ne suis pas allé voir, si je viens d'aller voir le parcours. C'est 160, alors, 2020, c'est 166 km et 9611 mètres de dénivelé. Donc, tu rajoutes encore 50 km par rapport à ce que tu as fait.
Mais que 1000 mètres de dénivelé de plus.
Ouais, mais avec des conditions climatiques qui peuvent être très, très différentes. Hein.
Oui.
T'as des pourquoi la Diagonale des Fous ? C'est quoi ? C'est pour toi, c'est la course un peu mythique ? C'est le...
Ouais, c'est assez mythique. C'est ouais, voilà, comme à Chamonix, c'est des courses mythiques.
Mais tu aurais pu dire, bah tiens, je vais aller faire l'UTMB. Pourquoi plutôt la Diagonale des Fous alors ?
Disons parce que là, en Suisse, il y a une course partenaire. Et puis si t'es finisher, ben tu peux t'inscrire à la Diagonale sans passer par un tirage au sort.
D'accord. Donc, ça veut dire que tu sais, par exemple, c'est-à-dire que tu as déjà ton dossard pour 2021 ou c'est que tu dois encore la faire, la fameuse course ?
Je dois la faire, être finisher.
D'accord. Et c'est prévu quand ça alors ?
Ça, c'est début juin de l'année prochaine.
Début juin de l'année prochaine, donc on sera 2021. Et la Diagonale des Fous, alors cette année, c'est 15 au 18 octobre, hein, c'est ça hein ?
Voilà, c'est ça. Puis c'est aussi la même période, mais en 2021.
En 2021. Donc, ce qui veut dire que dans l'année, ça veut dire quoi la course qualificative ? C'est un ultra, j'imagine aussi.
Voilà, hein, c'est un 110 km aussi.
Un 110, donc ça veut dire qu'en 1, 2, 3 mois, ça te fait 2 ultras à peu près ?
Oui.
2 ultras, ouais, à peu près.
Bon, ça fait une bonne révision et préparation pour la Diagonale.
Ouais, tu le vois comme une course d'entraînement finalement.
Voilà, en fait, la Diagonale, ce sont les bâtons. Donc là, déjà, mon coach, il m'a déjà dit que la course qualificative, ça sera sans les bâtons aussi. Quoi, vous faites toute l'année prochaine, ça va être sans bâton.
Sans bâton. Alors, les conditions climatiques, je pense que c'est impréparable parce que la Réunion, entre la Suisse et la Réunion, il y a quand même une différence climatique qui est importante. Il t'en a parlé d'ailleurs de cet aspect de gestion, de comment tu pouvais essayer de préparer le climat, la température, etc.
Non, on n'a pas encore parlé de ça. Pour l'instant, on a juste validé que, voilà, que c'était l'objectif de l'année prochaine. Mm. Et puis voilà, que ça se préparait sur... au début de l'année, c'était une année la préparation, à peu près.
Ouais, c'est-à-dire que tu vas dire tout 2021, c'est vraiment focalisé sur le Grand Raid, quoi.
Voilà.
On parle focalisation, finalement. Donc là, on a parlé de focalisation, on va dire, du sport, des entraînements, etc. Est-ce que tu... J'imagine qu'au niveau alimentation aussi, t'as dû recaler, j'imagine, t'as calé plein de choses, t'as dû... on parlait aussi d'ailleurs, tiens, de ce que t'avais mangé sur le parcours. Je pense que t'avais tout testé aussi à l'avance.
Oui.
Savoir exactement ce que t'avais mangé, comment t'avais mangé. Tu t'es entraîné, j'imagine, avec vraiment de manger comme en condition réelle. Hein.
Exactement. Donc là, là, par exemple, au début, dans la première montée, c'était assez un peu stressant là, parce qu'on montait vraiment à la queue leu-leu, et puis il n'y avait pas de place pour s'arrêter ou se dépasser là. Mm-hmm. Puis il n'y avait personne qui parlait, et puis au bout d'une heure, moi j'ai vu personne qui a mangé quelque chose ou même presque bu. Tout le monde avançait là, et puis moi je me dis, ah, mais là c'est l'heure, il faut que je mange déjà un petit bout. Et puis voilà, j'ai réussi à sortir sans faire perdre trop de temps à ceux qui étaient derrière moi, et puis manger ma barre, et puis continuer à marcher, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que là, toi, tu restes focalisé sur ce que tu connais, sur ce que tu as prévu, sur tu te dis, moi, il faut que... Je me fous un peu de ce que font les autres.
Voilà.
Je m'occupe de moi. Hein.
Voilà.
C'est pas décevant, enfin, ou c'est pas surprenant d'ailleurs, c'est parce que tu disais finalement au début, personne ne parle, tout le monde monte avec les bâtons, t'as que le bruit des bâtons. T'as été surpris par cette ambiance?
Ouais, c'était assez surprenant. C'était vraiment tout le monde qui était vraiment concentré, c'était vraiment... Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'était, là, on était dans la forêt, il n'y a pas de vue, il n'y a rien. Mais après, là, quand tu arrives en haut, là, il y a quand même les gens qui parlent, wow, c'est magnifique et tout ça. Les petits Parisiens qui voient les montagnes pour la première fois, presque.
Oui, alors ça a dû leur changer des entraînements à Montmartre, hein, l'histoire quand même, parce que... mais c'est vrai, hein, y en a plein qui... comment on s'entraîne, hein? Et c'est dans les invités précédents, on a eu notamment qui habitent à Bordeaux, qui sont dans des terrains plats. Puis j'ai souvenir aussi de quelqu'un qui habite vers le Havre, hein, en Normandie, où c'est aussi des terrains plats. Toi, c'est vrai que quand même, t'as cette chance finalement d'avoir la montée, tu la cherches pas finalement, hein, en étant en Suisse.
Ouais.
Toi, si tu veux faire de la montée, en fait, c'est faire du plat qui est presque plus compliqué, j'ai envie de dire.
J'ai du plat. Moi, j'habite juste en plaine, à la limite de... Voilà, les montagnes, elles sont à 1 km.
Ouais, donc toi, t'as un petit peu le mix des deux. Donc, préparer tout ce qui est grimpette et compagnie, c'est pas une difficulté. Tiens, je regarde quand même, tu vois, le site du Grand Raid. Hein. Le premier, quand même, il met 23h33 en 2018. Hein, donc, ça veut dire quand même que, tu vois, par rapport aux 14 heures de Montreux, même s'il y a 50 km de plus, il y a une technicité qui doit être encore tout à fait différente. Hein.
Oui.
Pourtant, j'ai envie de dire, pour l'instant, donc, c'est trop tôt parce que tu ne peux pas le préparer. Tu as regardé des vidéos, tu as commencé à rentrer dans une sorte de pré-préparation, tu vois, de dire, bah tiens, je regarde des vidéos, je regarde des documentaires, je regarde les témoignages de ceux qui l'ont fait, j'ai peut-être t'as essayé de discuter avec certains qui l'avaient fait.
Oui, j'ai commencé à regarder des vidéos, justement, des gars qui se sont filmés pendant la course, puis qui racontent leur aventure, quoi. J'en ai déjà regardé, 4-5, comme ça.
Et alors, tu trépignes?
Oui et non, parce que ça va faire mal, là, quand même. Bon, après, faut pas trop se réjouir, parce que on n'y est pas encore, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'après, bon, il y a cette histoire de course qualificative quand même à passer avant. Hein, je regardais quand même le parcours, hein, C'est vrai que là aussi, hein, en matière de raidillon à monter, mais de descente, il y en a une qui a l'air d'être tout à fait vertigineuse. Hein. Quand on regarde un petit peu d'où elle part et où elle arrive.
Ouais, c'est beaucoup des escaliers, quoi. C'est, ouais. Ouais, c'est style escalier un peu.
Ouais, 1973 mètres, 1992 au départ et 200 à l'arrivée. La descente, il y en a une, elle va vraiment être. Je pense que quand tu arrives en bas, tu dois être. Enfin, tu dois avoir mal aux jambes, hein, c'est clair. Tu te dis, il va falloir que je travaille un peu ma descente quand même.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Oui, c'est surtout, je pense, le renforcement musculaire.
Donc on a parlé de cet aspect alimentation, etc. Est-ce que, enfin, tu vois, tu disais finalement tu cours pas tant de kilomètres que ça, etc. Mais je pense sur l'organisation globale quand même de tes mois, de tes semaines, je sais pas. Est-ce que tu prévois tes vacances pour aller faire certains trails en disant ça va préparer à ces grandes courses? Est-ce que tu j'ai envie de dire à quel point tu vois tu penses course à pied quand tu dans ton année en fait?
Comment dire, bah, disons que là, ouais, avec la course qui aurait dû avoir dans les Pyrénées, ben, j'avais prévu de faire quand même une semaine sur place pour profiter de la région. Et puis après, voilà, j'ai fait le semi-marathon à Marseille, et donc ça te fait visiter un peu. J'ai fait le marathon à Athènes en faisant quelques jours sur place. Mmh. Et puis voilà, c'est des choses comme ça.
Et tiens, bah, c'est intéressant, ton expérience en marathon, entre marathon et l'ultra finalement, c'est, tu préfères quoi entre les deux?
Il n'y a pas photo à l'ultra.
Et lequel, parce que c'est un vrai débat hein, là-dessus, est-ce qu'elle te trouve par exemple que, comme beaucoup disent, que le marathon est beaucoup plus fatigant qu'un ultra, ou finalement tu dis que ce n'est pas le même genre de fatigue?
Oui, ce n'est pas le même genre, mais c'est... Le marathon, ça tape tout le temps, quoi. On est pendant 4 heures sur le béton, quoi.
Mmh, ouais.
Bon, en fait, j'ai craqué au marathon. Après, là, le 30e, j'en pouvais plus. Et puis, j'ai marché, quoi. Ouais. J'avais trop mal aux jambes.
Bon, je peux pas t'en vouloir parce que c'est arrivé à la même chose. Donc, on est un peu dans le même genre de truc. Mais c'est vrai, hein, c'est pas le même genre d'effort. Et puis même au club, moi, j'entends hein, des gens qui ont fait de l'ultra, qui ont fait des 170, tu vois, quelque chose comme ça l'an dernier, et qui disaient que effectivement, c'est pas le même genre de fatigue, c'est pas le même rythme, puis non plus la même focalisation sur le temps. Alors même si c'est vrai que t'en parlais de la barrière horaire, hein, sur finalement, si tu fais un marathon, tu cours encore en 4 heures à peu près.
C'était l'objectif, mais j'ai fait presque une heure de plus.
Ouais. Mais finalement, bon, on est moins. Cette notion de barrière horaire, tu l'as moins en tête. Alors que là, vraiment, c'est vrai que sur le parcours des ultras, c'est vraiment ce qui prédomine, c'est de se dire il faut vraiment que j'arrive déjà à. Il n'y a pas que la ligne d'arrivée, quoi. Il y a toutes les étapes intermédiaires à passer les unes derrière les autres.
Oui. Mais bon, j'avais quand même, même si à la fin j'ai que 30 minutes sur la barrière horaire, toutes les autres, j'avais quand même un peu de marge. On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais si on compte que c'est en pourcentage par rapport au taux qu'on a passé, on a quand même 20% de marge, même s'il reste qu'une heure et demie, ça fait quand même 20% de marge par rapport au taux qu'on a déjà passé. Donc 20%, ça paraît plus qu'une heure et demie.
Ouais, finalement, tu te dis, il me reste de la marge. Oui, ce qui finalement, moi, j'ai passé une barrière horaire sur un petit trail à 10 minutes près ou à un quart d'heure près. Finalement, toi, tu as plus de marge que moi sur mon 19 km. Toi, avec ton heure ou ta demi-heure, tu as plus de marge que moi avec mes 10 minutes sur 19 km. Effectivement. Bah, franchement, tu vois, moi, quand je regarde un petit peu tout ça, puis je vois c'est vrai que le parcours devait être magnifique. Hein, tu vois, je vois en plus c'était qualificatif UTMB. L'UTMB, c'est pas un truc qui te tente?
Je me suis déjà inscrit plusieurs fois à l'OCC, mais j'ai pas été pris tiré au sort. Et puis normalement, l'année prochaine, je devrais avoir une place sûre, mais maintenant qu'ils ont annulé cette année, je sais pas comment ça va se passer.
Oui, parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est que les dossards de cette année ont été reportés sur l'année prochaine pour ceux qui veulent les garder. Hein. Et donc, ceux qui voulaient s'inscrire pour l'an prochain ou ceux qui avaient la place automatique pour l'an prochain, eh ben, ça, c'est vrai que la question, c'est de savoir où vous placez parce qu'on ne peut pas quand même mettre doubler les effectifs sur les parcours, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même.
Oui, c'est ça.
Et finalement, si l'UTMB, enfin ou l'OCC, si tu peux faire l'OCC, ça sera aussi une course de préparation pour toi par rapport à la Diagonale ?
Oui, oui, ça sera de l'expérience en plus. D'être dans un événement, comment on pourrait dire ça, mondial, avec vraiment des milliers de coureurs, ça enlèvera peut-être le stress du départ au Grand Raid.
Au Grand Raid, ouais. En tout cas, c'est une sacrée aventure. Après, je me demande, tiens, bon, je te demande pas de te projeter après 2022, etc. Mais bon, finalement, peut-être que t'as encore un grand rêve. Peut-être que tu vas me dire après, je vais faire le marathon des sables ou des choses comme ça. T'as déjà pensé à des trucs comme ça ou
parce que ça m'attire pas trop, non.
Ah oui, ça t'attire pas. Toi, c'est plutôt, il faut que ça monte ou c'est plutôt la montagne ou c'est quoi qui.
Ouais, plutôt la montagne.
Qui va t'attirer plus alors ? Plutôt de la montagne ?
Oui. Après, j'aimerais bien faire une fois à Zegama, mais le tirage au sort, c'est encore pire que l'UTMB.
Mmh. Oui, on en parlait de Zegama, justement. C'est vrai. Alors là, par contre, au niveau ambiance...
Oui, c'est ça. C'est juste pour l'ambiance. Quoi.
J'ai pas regardé les conditions, tiens, de Zegama. C'est quoi ? Il y a des qualifications ? Il y a des tirages au sort ? Comment ça se passe ?
Il y a tirage au sort, mais je crois qu'il y a, pour les populaires, il n'y a que... Il n'y a même pas 200 places chaque année, en fait. Et puis, il y a, ben, je sais pas, il y a au moins 20 000 demandes. Mm. Puis, en fait, quand tu n'es pas pris une année, ben, l'année prochaine, quand je vais me mettre au tirage au sort, ben, j'aurai deux chances. Mon nom, il sera deux fois, vu que j'ai déjà raté une fois le tirage au sort.
Ouais.
Donc, il y a des gens qui ont déjà, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été pris, et puis, ben, ils comptent déjà comme 15 demandes.
Oui, oui. Alors, puis là, il n'y a pas l'automatisme de finalement de l'UTMB où si tu n'as pas été pris les deux premières années, la troisième année, tu voilà, as ta place. Oui. Là, c'est quelque chose qui ne marche pas hein, sur Zegama. C'est quelque chose qui n'est pas. Ils ne fonctionnent pas comme ça, eux, de leur côté.
Oui, c'est ça.
Bah, en fait, alors, puis là, tu vois, je suis en train de regarder. Je suis sur le site de Zegama en même temps. Je regarde. Et là, effectivement, sur les petits passages, il y a du monde partout. C'est réputé pour son ambiance. Hein. Bon, si cette année c'est annulé, c'est mars, hein, Zegama, donc c'est annulé. C'était en plein milieu du confinement, donc ouais. Ça peut pas se faire. Et puis c'est quand même les terres d'un certain Kylian Jornet. Hein,
Exactement.
Qui est le roi un petit peu, qui a des rois là-bas. Est-ce qu'il y aurait d'autres courses encore après ou finalement, bah tiens, on disait l'UTMB, finalement, est-ce qu'un jour l'UTMB, tu t'imagines prendre le départ, mais j'ai envie de dire du grand UTMB ?
Oui, oui, non, ça, bien sûr que ça m'intéresserait. Après, j'ai encore de longues années devant moi.
Et ben en tout cas chapeau parce que tu vois moi quand je regarde ces distances là pour l'instant je me sens pas dans les je me sens pas tu vois puis même je le dis hein, très clairement je me sens pas plus attiré que ça encore pour le faire tu vois et pourtant mon coach il m'a dit il faut que tu trouves une aventure un truc qui te semble incroyable à faire mais que tu vas te programmer de le faire dans 3-4 ans ben, je cherche
je sais la extrême à Montreux.
La extrême à Montreux, bah écoute, quand je regarde les paysages et puis tu me dis toi, c'est finalement pas si compliqué que ça à gérer. C'est vrai que ça change un petit peu, tu vois, la vision parce que moi ça me semblait être quelque chose qui me semblait vraiment insurmontable. Et puis quand je voyais tu vois, les entraînements de certains clubs qui faisaient par exemple un marathon les week-ends ou des choses comme ça pour s'entraîner, tu vois, qu'il y avait un volume de course qui était beaucoup plus important que le tien quand même pour la préparation. Je me disais, moi, je ne vois pas comment je place ça dans un emploi du temps, tu vois, c'est un petit peu la difficulté. Et puis dans le dernier avito avec Thibaut, on en a parlé de cette notion de comment est-ce qu'on place ça dans un emploi du temps, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça, parce que finalement, tu fais quoi, 3 entraînements par semaine, quelque chose comme ça ?
Un peu plus, c'est ouais, plutôt 5.
Plutôt 5, oui.
Mais bon, donc, mais des fois, c'est 45 minutes ou une heure.
Et si finalement, c'est quoi ? C'est surtout les week-ends hein, où tu as des gros blocs le week-end pour préparer vraiment la distance. Quoi.
Mais c'est même pas tous les week-ends. Des fois, le week-end, c'est juste footing d'une heure.
Ouais. Donc, c'est finalement l'organisation, elle n'est pas si insurmontable. C'est ce que tu es en train de nous dire.
Absolument.
L'organisation est pas si insurmontable. Tu nous prouves que après 4 ans de course, ben finalement, t'as pu le faire et donc, c'est jouable, c'est faisable. Je pense que c'est un super message, tu vois, pour tous les hamsters là qui courent comme ça. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un un message qui m'a dit qu'elle sentait par exemple pas du tout capable de faire même un marathon ou des choses comme ça. Toi aussi, t'es passé par là en fait. Hein. Toi aussi, courir voilà, la première fois, les 4,5 km, tu disais, ça a été compliqué. Qu'est-ce qui pour toi, tu vois, tu te dis, quand tu regardes ton parcours, tu te dis, tiens, le coureur que j'étais il y a 4 ans et demi qui débutait comme ça, quand tu le regardes, tu te dis, il a bien fait de mettre les baskets ce jour-là. Si t'avais un conseil à lui donner, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
Qu'il aurait dû commencer plus tôt. À se prendre en main et puis à se mettre au sport.
Oui, mais bon, c'est vrai qu'après, voilà, c'est les aléas de la vie. Hein, c'est,
exactement.
Est-ce que tu aurais fait... D'ailleurs, c'est une vraie question hein, qui peut se poser. Est-ce que tu aurais fait... est-ce que tu aurais progressé comme ça? Est-ce que tu aurais fait ce type de course si tu avais été plus jeune? On ne sait pas comment on peut réagir. On dit souvent d'ailleurs que les longues distances, c'est des courses... Alors, je ne dis pas de vieux, hein, parce que je ne saurais pas dire que tu es...
Ouais, t'as plus ou moins le même âge que moi, hein, je crois.
Voilà, donc dans là-dedans, on va pas se traiter de vieux non plus. Mais j'imagine dans le peloton, c'était pas non plus un peloton très jeune, hein, j'ai envie de dire. Je sais pas si t'as regardé un petit peu l'âge moyen. J'ai pas vu la liste des participants d'ailleurs sur la course, s'il y avait un âge, etc.
Je vais pas regarder non plus.
C'est pas des courses très jeunes, hein, si je compare aux 5 km, aux 10 km, où il y a beaucoup de gamins dessus qui peuvent les faire déjà, parce qu'il y a des questions de légales, hein, de législation, etc. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que ces courses de longue distance, c'est plutôt un truc des anciens, des vieux, donc peut-être, on ne sait pas, hein, si quand on commence un peu plus tôt, est-ce qu'on aurait fait le même parcours, est-ce que peut-être tu aurais fait plus de vitesse, hein, pourquoi pas, on ne sait pas. En tout cas, c'était un super témoignage de t'entendre, de nous expliquer tout ça, hein, comment cette progression, je trouve, moi, je trouve c'est incroyable, finalement, on ne se rend pas compte, hein, de... De toute façon, toi non plus, tu ne savais pas quand tu as couru la première fois que tu allais faire 112 bornes 4 ans plus tard.
Tout à fait. Mais après, voilà, ça paraît incroyable comme ça, mais j'y suis quand même allé très progressivement, quoi. Comme les trails, j'ai commencé, c'était 20 km, après c'était 30, après voilà, 1,50, après voilà, 70 et 30 le lendemain, après 1,80, puis voilà, maintenant 100. Mais ça a été crescendo quand même.
La progressivité, hein, progressivité, patience, enchaîner au fur et à mesure, pas trop aussi, c'est vrai, hein, tu t'es pas lancé sur ce type de course en t'entraînant un petit peu, hein, c'est que tu nous as dit 30 courses dans une seule année, par exemple, 30 dossards dans une seule année, donc finalement, tu auras une collection de dossards et de médailles chez toi qui doit être assez impressionnante. Merci beaucoup à toi pour ces conseils, hein, je trouve que c'est vraiment un message qui est super, c'est super motivant, tu vois, de te dire finalement, en 4-5 ans comme ça, de voir ton parcours. Moi, tu vois, je suis impatient d'entendre après ton récit de l'an prochain, de quand on aura fait la diagonale. Je te réinviterai pour la diagonale si tu veux bien. On en rediscutera de voir comment tu l'as vécu. Parce que avec ta motivation, moi je te souhaite tout le meilleur. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour tes conseils. Où est-ce qu'on peut te suivre? Tiens, si on veut suivre tes aventures, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures?
Ben, sur Strava, Instagram, Facebook.
Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, bien entendu, hein, comme ça on pourra te retrouver, tu m'enverras tous les liens et j'imagine qu'il y aura des photos sur... Je sais pas, t'attends de prendre des photos comme ça dans T'as pris des photos d'ailleurs, oui tiens, pendant la course?
Non, j'ai pas pris de photos. Si tu commences à prendre des photos sur une course pareille, là tu t'arrêtes pas, c'était tellement magnifique.
Ouais, c'est un peu, tu vois, moi, mon truc, c'est-à-dire que moi, j'adore tellement prendre des photos que... Mais bon, c'est vrai que tu disais, il y a des gens qui font des vidéos pendant la diagonale des fous. ils prennent du temps pour filmer, ou en tout cas ils stabilisent, je sais pas comment ils gèrent ça d'ailleurs, à voir, ça peut être intéressant. Mais j'avais couru avec des gars, tu vois, qui faisaient sur des reconnaissances, qui avaient un tout petit appareil photo, tu vois, quand même, et qui faisaient eux quand même des photos, tu vois, sur leur, ils faisaient sur des courses, etc. Des gars qui couraient assez vite en plus, tu vois, j'étais un peu étonné, et qui prenaient quand même, qui avaient un tout petit appareil photo, qui prenaient quand même des photos. Je pense qu'après chacun le gère un petit peu comme ça, mais oui, comme tu dis, si, quand tous les paysages sont magnifiques, surtout au lever du soleil, tu t'installes une demi-heure pour regarder le lever du soleil, tu te dis bon, bah, la barrière horaire, je suis peut-être pas prêt de la passer.
Ouais. Non, mais à l'entraînement, ça c'est sûr, je prends des photos.
Merci beaucoup en tout cas pour ces récits. Voilà, tu nous montres que tout est possible, hein, quand on se met à bouger, qu'on peut avoir été en surpoids, qu'on peut avoir eu toutes les peines du monde à finir son 4 km et demi la première fois, et que pourtant ça n'empêche pas de s'attaquer à des monuments, hein, 112 km quand même, ça fait partie des grands trucs, et puis la Diagonale des Fous, c'est vraiment un monument de la course. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite bien sûr tout le meilleur pour. T'as d'autres courses prévues, tiens, d'ici la fin de l'année?
Pas pour le moment. Ouais, elles ont toutes été annulées déjà.
Mais sinon, t'auras enchaîné?
Oui. J'avais acheté un trail de 50 km fin septembre. Et puis j'avais Sierzinal aussi.
D'accord, donc tu te dis, ouais, derrière, je peux enchaîner, je peux enchaîner. Comme quoi, tu vois, c'est les chacun, après, il le gère un petit peu. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour tes conseils, pour le temps que tu as passé avec nous. Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode, bien entendu, pour retrouver, pour te suivre à droite, à gauche, et pour voir un petit peu comment tu vas... Où est-ce que tu vas poser tes baskets, hein, où est-ce que tu vas courir? Tiens, on va faire un petit... juste deux, trois dernières questions. En chaussures, tiens. Est-ce que tu as une marque préférée? Avec quoi tu cours?
Là, j'ai couru avec des Saucony. Et puis, c'était la première fois... Quoi, c'était ma première paire de Saucony. Autrement, j'ai eu quelques Salomon. J'ai bien aimé j'avais des Innové pour le trail. Puis autrement, pour la route, je suis avec des ASICS.
ASICS. Pas de boisson, alors t'as dit pas de gel, hein, des bars, des choses comme ça. T'as une marque que t'aimes bien ou...
J'aime bien Mulbar. Les compotes, ça, c'est pas mal.
Ta montre, tiens, ah oui, parce que c'est quand même une question, tu vois, j'ai failli oublier. Pour tenir 30 heures, quand même, il faut quand même une montre qui soit un peu costaud.
Je l'ai chargée 3 fois en cours de route.
T'as quoi comme montre, tiens, parce que ça intéressera, je pense, que ça s'aligne sur ces distances-là.
J'ai une Garmin Fenix 5+.
Mais t'as pu la synchroniser après la course?
C'est le lendemain.
D'accord. J'ai une grosse pensée, parce que c'est vrai que le plantage de Garmin, et puis j'ai eu des messages de gens qui disent « Ah, j'ai toujours mon Garmin qui marche pas, etc. » Ça serait dommage quand même de ne pas avoir une trace, hein, de ta course synchronisée. Donc t'as réussi à la charger, ça veut dire que t'avais quoi? T'avais pris une batterie, t'avais géré ça?
Ouais, j'avais une batterie, et puis je l'ai chargée 3 fois, puis je fais ça généralement dans les montées. En fait, je la garde quand même au poignet, mais j'ai acheté un chargeur en Chine là, qui est rond, puis que je peux mettre dessous, et puis je l'arrive à la garder au poignet avec le câble qui va juste à la batterie dans le sac.
Voilà. Tiens, j'ai pas d'autres questions, parce qu'après on va rentrer trop dans les petits trucs, des détails techniques, etc. Si les gens ont une question, je pense qu'ils peuvent te contacter, ils peuvent regarder ce que tu fais sur Instagram, un petit peu à droite à gauche. Et j'imagine, parce que je sais, il y a toujours des gens qui posent des questions, qui se demandent, qui veulent avoir des conseils, parce que il y en a plein, hein, quand même, qui veulent se lancer sur l'ultra et qui se disent bon, maintenant je sais que c'est possible, reste à voir comment on peut le faire. Et c'est vrai que ceux qui ont vécu ce parcours là c'est toujours très inspirant, et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tes conseils. Voilà, est-ce que tu as un petit mot pour finir, un petit mot pour ceux qui voudraient le tenter, leur dire un petit truc d'encouragement ou quelque chose qui pour les aider, un petit conseil?
Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, mais après c'est surtout une question de mental. Après, les jambes, je pense, elles suivent. Le corps humain, il s'adapte, et puis un peu d'entraînement et les jambes elles suivront.
Eh bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kilomètre 42. Je ne sais pas si on fera autant de chemin que ça. En tout cas, merci beaucoup à toi, Stéphane, pour le temps que tu as passé avec nous, pour les conseils et pour ce beau message. Hein, tout le monde peut le faire. Mais voilà, tu as fait des heures d'entraînement, tu as aligné les dossards, tu as aligné les kilomètres pour arriver à le faire. Et c'est un très, très bel exemple. Merci beaucoup à toi pour ton témoignage.
Merci à toi.
Et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao, ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.